Faso IAFA, un programme de Studio IAFA.
Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faso IAFA, le magazine humanitaire du studio IAFA. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur Kongoussi, dans le centre nord, où nous allons à la rencontre d'Amidou Bari. Déplacé depuis quelques années, cet éleveur a dû se réorienter vers la menuiserie pour survivre. Avec le docteur Karim Kombasséré, nous explorerons les risques sanitaires auxquels sont exposés ceux qui travaillent le bois, ainsi que les mesures de protection à adopter. Dans ce numéro, nous aborderons également les défis auxquels sont confrontés les hommes déplacés ainsi que les dispositifs de prise en charge de ces personnes en cas de crise ou de catastrophe. Pour finir, notre invité de la rubrique Musique Live est Zedmo, l'auteur des tubes à succès des années 2000 tels que Amélie, Baba. Voici pour le programme du jour. À la présentation, je suis Nelly Tapsova. Chez lui, il était agriculteur et éleveur. L'art du bois, qui n'était que son passe-temps, est devenu aujourd'hui un travail à temps plein. Amidou Bari, déplacé interne originaire du village de Silgadji, est installé à Kongoussi dans le Bam depuis plus de 2 ans. Pour pouvoir joindre les deux bouts, il pratique la menuiserie. Zoom sur une résilience forgée dans le bois avec Awa Muniratu Tankwano.
Le soleil bat son plein au quartier Lidgou de Kongoussi. Sous un limier, devant sa boutique, au bord du bitume qui lui sert d'atelier, malgré la chaleur étouffante, Amidou Bari est derrière sa table de travail. Il rabote du bois dans le but de fabriquer un lit. Amidou guette aussi le moindre client pour ses objets du quotidien qu'il a exposés. On peut apercevoir des tabourets, des tables, des bancs, des pièges à rats, des lits et plein d'autres objets fabriqués en bois. Le marché est morose aujourd'hui, nous confie le vieillard d'environ la cinquantaine. Déplacé interne originaire de Silgadji, la menuiserie est une activité de second plan pour lui. Il a appris les fondements de ce métier juste pour pouvoir fabriquer quelques objets. Aujourd'hui, installé à Kongoussi depuis plus de 2 ans, il a réussi à perfectionner ses connaissances sur ce métier et à en faire un travail à temps plein.
Je faisais l'élevage et je cultivais. L'agriculture, là, ça, tu vois que c'est fini. L'élevage aussi, c'est difficile. Donc, c'est forcé. Tu vas faire quelque chose de tes 10 doigts. Sinon, tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent dedans, mais ça nous met à l'abri de certaines situations. Parfois dans le mois, je peux gagner 50 000 francs, parfois je gagne moins, parfois même 15 000. Cela dépend des marchés que je gagne. Le marché est vraiment morose.
Le manque de clientèle, le coût élevé des taxes de la mairie et de la matière première sont entre autres difficultés que rencontre le quinquagénaire. Ses productions les plus rentables sont les portes en tôle qui se vendent entre 15 000 et 25 000 francs CFA, les lits en bois et aussi les tables. Il travaille en étroite collaboration avec Rasmane Sawadgo, son mentor et professeur, qui lui file souvent des marchés.
C'est avec moi qu'il a appris ça. Et il continue de collaborer. S'il a besoin d'explications au niveau de la menuiserie, s'il s'approche de moi, je l'explique. Dans le métier, il y a ça et ça. Si c'est une commande aussi, il veut pour ses clients, je l'explique. Les dimensions qu'il n'arrive pas à comprendre, je lui donne les informations. L'entretien de la clientèle, des fois, s'il me pose la question, tel client a fait ceci, cela, je dis non. Il faut négocier avec les clients parce qu'il faut collaborer avec les clients pour pouvoir avancer.
Parti de rien, ses plus grosses productions se font sur commande désormais. Cette astuce lui permet de réduire les méventes et de pouvoir payer la matière première à crédit. Bachirou Bari est gérant d'une quincaillerie au marché de Kongoussi. Il est le fournisseur d'Amidou.
Wallahi, c'est chez moi qu'il vient prendre le matériel. Lui aussi, il part travailler pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ce n'est pas facile de donner des crédits, mais avec la situation actuelle du pays, il y a beaucoup de déplacés. Nous n'avons pas d'argent pour les aider, mais nous pouvons leur donner du matériel à crédit. Ils vont aller travailler, enlever leurs bénéfices et nous payer. C'est pour cela que nous les aidons.
Amidou rêve d'agrandir son atelier et prie pour qu'une bonne volonté l'aide dans ce sens. Mais son vœu le plus cher est de pouvoir rentrer chez lui et continuer sa vie d'antan et surtout pouvoir conquérir une nouvelle clientèle avec ses nouvelles compétences acquises.
La
La fille qui bat.
Travailler le bois peut exposer sur le long terme le menuisier à des maladies pulmonaires. Le docteur Karim Kombasséré préconise de porter le masque et de se protéger le nez, les bras et les yeux dans les ateliers de production. Il répond au micro d'Awamunira Toutankwano.
Bonsoir docteur.
Bonsoir madame.
Quelle appréciation faites-vous de la résilience de cette personne déplacée interne là?
Déjà, c'est une résilience à saluer. Déjà que ce sont des personnes déplacées et ces personnes trouvent le moyen de trouver un autre travail pour ne pas rester les bras croisés. C'est quelque chose qui est à saluer.
Dans le reportage, cette personne déplacée est amenée à raboter du bois, donc à respirer des particules. À quel risque sanitaire s'expose-t-elle?
À vue de... Les risques ne sont pas très élevés, vu que c'est juste une activité qui n'est pas très grande. Mais de façon générale, il faut savoir que la personne s'expose au risque d'infection pulmonaire liée à l'inhalation des débris de rabotage du bois.
Okay.
Voilà. Donc ces risques peuvent aller jusqu'à l'infection pulmonaire.
Puisque c'est son métier de subsistance, comment est-ce qu'il peut se protéger de ces risques sanitaires?
Voilà, le souhait, c'est que cette personne ne tombe pas malade. Donc, tout ce qui est à faire, c'est vraiment se protéger les narines, peut-être porter un masque, et ça va l'empêcher d'inhaler ces débris-là, voilà, de bois. Et si le travail prend de l'ampleur, le plus souvent, il faut, même si c'est il faut porter des habits qui ont des manches longues, des habits qui protègent la peau pour éviter aussi l'exposition à la peau. Et puis bon, protéger aussi les yeux de temps en temps avec un masque facial. Ça va être intéressant.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, madame.
Momo et Nafou.
Aujourd'hui, Momo partage avec Nafou les difficultés auxquelles font face les hommes déplacés du fait de l'insécurité. Il lui parle notamment des pressions financières et émotionnelles que les hommes vivent pour survenir aux besoins de leur famille. Il décrit également le sentiment de culpabilité et d'impuissance face à l'incapacité de protéger leurs proches.
Bonjour Momo, comment vas-tu aujourd'hui?
Bonjour Nafou, ça pourra aller mieux. Je suis juste fatigué de tout ça.
De quoi parles-tu, Momo? Fatigué?
De ma situation, de notre situation. Quitter son foyer à cause de la guerre pour s'installer ailleurs, c'est comme être pris dans un tourbillon sans fin. Rien ne semble s'améliorer, rien.
Je comprends, Momo. Je pense que vous, les hommes, vous vous en sortez mieux dans cette situation de crise que nous, les femmes, hein, les jeunes filles et les enfants. Nous sommes plus vulnérables que vous, Momo.
Justement, je trouve qu'il y a une discrimination qui ne dit pas son nom. Très souvent, on nous oublie. On se dit que les hommes sont forts, courageux. Ils n'ont pas besoin de soutien particulier. Et pourtant, Dieu seul sait combien on se cherche, parfois même dans cette situation difficile.
Mais c'est pas vrai, Momo.
Ma soeur, détrompe-toi. C'est parce que nous, les hommes, on ne parle pas.
Ah bon?
On dit chez nous que le mouton qui belle n'est pas celui-là qui a le plus soif.
Momo, dans ce cas, parle-moi de la souffrance des hommes dans cette situation d'insécurité pour que je puisse mieux vous comprendre.
Écoute, les pères de famille déplacés internes sont souvent confrontés à une pression financière énorme pour subvenir aux besoins de leur famille. En matière de logement, de nourriture, de vêtements, d'éducation et de soins de santé, nous sommes contraints de chercher du travail dans des conditions précaires et peu rémunérées pour répondre à tous ces besoins-là.
Tu as raison. On dit chez nous que c'est l'homme qui doit s'occuper des besoins de la famille.
Nous devons prendre des mesures pour protéger notre famille contre des dangers. Nafou, que crois-tu qu'un homme ressente quand sa femme ou ses enfants meurent de faim, souffrent de malnutrition par manque de quoi manger, ou quand on viole sa femme, sa fille dans des situations de désespoir? Il souffre dans l'âme, dans sa chair, il se culpabilise de n'avoir pas pu protéger sa famille. Et Nafou.
Tu as raison, mon Wallahi. Je n'avais jamais pensé à ce que tu me dis là.
Nafou, laisse-moi te dire que nous ressentons de l'impuissance et de la frustration face à notre incapacité à garantir le bien-être de nos femmes et enfants.
Je suis vraiment désolée que tu ressentes cela, Momo. Mais je pense qu'il y a de l'espoir.
Vraiment?
Oui.
Mais tu penses à quoi exactement?
Momo, nous pouvons commencer par sensibiliser nos dirigeants et la communauté à ces questions. Nous pouvons demander des programmes qui offrent un soutien psychosocial aux hommes déplacés, ainsi que des opportunités de formation professionnelle et d'emploi pour les aider à reconstruire leur vie.
Merci, Nafo. Je me sens déjà mieux en sachant que je ne suis pas seule dans cette lutte-là.
De rien, Momo. Nous sommes dans la même situation. Inutile de dire qui souffre plus que qui. Chacun a déjà son lot de souffrances.
Kibar utile.
Comme Momo, de nombreuses personnes estiment que les hommes sont les grands oubliés de l'assistance humanitaire dans les situations de crise ou de catastrophe. Cela du fait de leur position de chef de famille ou à cause du courage qu'on leur confère. Pour en parler, nous avons rencontré Serge Atsomotsi. Il est assistant représentant chargé de protection au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Il répond aux questions de Lagoun Ismaël Drabo.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on appelle l'assistance humanitaire?
L'assistance humanitaire, c'est tout le paquet qui vise à répondre, n'est-ce pas, aux besoins des personnes qui ont été victimes de conflits, de catastrophes naturelles et autres. Donc, tout ce qui est assistance matérielle, tout ce qui est également assistance psychosociale et qui a pour but de contribuer à leur relèvement, contribuer à leur bien-être et à leur réinsertion dans la société.
D'accord. Et en cas de crise ou de catastrophe humanitaire, qui peut bénéficier d'une assistance humanitaire?
Normalement, c'est toutes les personnes qui sont dans le besoin, dont celles qui ont été victimes de cette crise, donc que ce soit les conflits, que ce soit les catastrophes. Et il s'agit, n'est-ce pas, de personnes dans le besoin et ce, sans discrimination. Vous savez que la Constitution burkinabé, en application des textes internationaux auxquels le Burkina a souscrit, n'est-ce pas, proscrit la discrimination parmi les populations. Et donc, tous ceux qui ont été victimes, n'est-ce pas, de ces situations de conflits, de catastrophes, que ce soit les hommes, les femmes, les personnes à besoins spécifiques, n'est-ce pas, ont normalement tout de droit à l'assistance humanitaire.
Mais selon l'opinion publique ou le sens qu'on met quand on regarde, on a l'impression que ce sont les femmes et les enfants qui sont considérés comme des personnes vulnérables et les hommes dans cette assistance humanitaire-là semblent être oubliés. Qu'en est-il réellement?
Oui, c'est une perception, à première vue. Qui peut être compréhensible dans la mesure où ce qui frappe lorsque il y a des situations de catastrophe, c'est que c'est les femmes, c'est les enfants, n'est-ce pas, qui font partie des couches les plus vulnérables à la population, qui sont les premières victimes. Et lorsque l'on regarde effectivement les statistiques, par exemple au Burkina Faso, actuellement, c'est plus de 6,3 millions de personnes qui sont dans le besoin. Et parmi ces personnes, la majorité, n'est-ce pas, est constituée de femmes et d'enfants. Mais lorsqu'on dit la majorité, ça ne veut pas dire la totalité. Et donc, les hommes également peuvent être dans un besoin, n'est-ce pas, d'assistance humanitaire. Ça peut être des besoins, n'est-ce pas, matériels, parce qu'il y en a qui ont eu à perdre leurs moyens de subsistance, qui ne peuvent plus pouvoir besoin de leur famille. Il y en a également, n'est-ce pas, qui ont besoin de soutien psychosocial. Donc, pour me résumer, certes, les femmes, les enfants sont les couches les plus vulnérables, mais les hommes également peuvent se retrouver dans des situations où ils ont besoin, n'est-ce pas, d'assistance.
Comme vous le savez, sous nos cieux, les hommes sont les chefs de famille. Ils veulent donc se montrer courageux dans la plupart des cas face à certaines situations. Est-ce que les hommes n'ont pas besoin peut-être d'un accompagnement spécifique dû à cette situation.
Oui, on a coutume de dire, n'est-ce pas, dans nos traditions, que un homme qui souffre ne pleure pas. C'est-à-dire que l'homme ne doit pas montrer sa souffrance. Mais la réalité, n'est-ce pas, est que l'homme également peut souffrir, n'est-ce pas. Et si l'homme souffre, il a besoin d'accompagnement. Et il appartient, n'est-ce pas, à tous les acteurs humanitaires de pouvoir identifier, n'est-ce pas, cette souffrance, de pouvoir identifier les besoins qui peuvent aussi être des besoins spécifiques. Par exemple, si on a une personne vivant avec handicap, si on a une personne âgée, n'est-ce pas, il s'agit là de personnes qui ont des besoins spécifiques auxquels on doit pouvoir apporter une réponse, n'est-ce pas, qui soit adaptée, qui soit adéquate, qui soit appropriée.
Merci beaucoup.
Merci.
Nous prenons à présent la direction de Diapangou, une localité située dans la région de l'Est. Dans cette localité, une association s'est fixée pour objectif l'autonomisation de la femme rurale. Tim Boaba, ne pas les marginaliser en Goulmachema, intervient dans la production et la valorisation de produits locaux, la transformation du coton ainsi que le maraîchage. Des centaines de femmes sont formées de façon périodique avec pour objectif de leur permettre de se prendre en charge. Focus sur l'association Tim Boaba, avec notre correspondante Hortense Yougbaré depuis Fadan Gourma.
En cette matinée de lundi, Aminata Wambo surveille les activités de plusieurs femmes à la tâche. Certaines sont affairées à la préparation du sumbala, pendant que d'autres sont à la filature du coton. Aminata est la présidente de l'association Tim Boaba, basée à Diapangou, à une vingtaine de kilomètres de Fadan Gourma, dans la région de l'Est.
Au niveau de l'association, on intervient dans plusieurs volets. D'abord dans la valorisation des produits locaux.
Dans ce domaine, Tim Boaba, ne pas les marginaliser en Angoulmachema, transforme plusieurs produits locaux.
Quand je prends les céréales, c'est le riz étuvé que nous faisons. Le maïs, on transforme en farine pour le taux. Également, au niveau des produits forestiers non liés, je prends le cas de karité, le moringa, le baobab, le balanites et le niré. Donc, au niveau du karité, on transforme en beurre de karité. Et ce beurre-là est vendu à l'État. Et une autre partie est transformée en produit cosmétique.
Cette association fait également de la filature du coton et le maraîchage avec pour objectif l'autonomisation des femmes rurales.
On s'est dit qu'une femme qui est là, qui n'a rien, du coup, au niveau familial, elle n'est pas respectée. Donc nous, on s'est dit que non, normalement, nous devons travailler pour que, côté économie, qu'on rehausse un peu là. En tout cas, nous aussi, on aura en tout cas quelque chose à accompagner au niveau familial.
Tim Boaba a accompagné plusieurs femmes dans la région de l'Est. Des femmes qui parviennent aujourd'hui à subvenir aux besoins de leurs familles respectives. Aminata Natama, une bénéficiaire.
Elle a permis aux femmes de Diapangou de se développer, particulièrement moi, parce que j'ai reçu des aides techniques, matérielles. L'association m'a permis de faire des AGR, tels que la transformation des produits forestiers non liés, la fabrication du savon, de la pommade.
Cette association existe depuis 2008. En 2022, elle a été décorée pour ses œuvres en faveur de la femme. Son ambition est d'aider plus de femmes à travers toute la région de l'Est.
La page musicale de ce magazine est assurée par Aimé Roland Ouetraogo.
Vous l'aurez si bien compris, notre invité de la rubrique Music Live. Aujourd'hui, c'est Mumuni Zungrana pour les intimes Orlando, alias Zedmo, artiste musicien évoluant dans le style reggae. L'auteur d'Amélie, il est en studio avec nous ce soir. Bonsoir Zedmo.
Bonsoir.
Comment vous allez?
Oui, ça va bien, merci. Et vous?
Oui, je vais bien.
Dieu merci.
Le nom d'abord, Zedmo, pourquoi vous aviez choisi le pseudo
Zedmo.
Voilà, Zedmo, parce que moi, je me nomme Zungrana Mumuni,
oui.
Mais à l'école primaire, on m'appelait Orlando. Donc, j'ai préféré faire Z comme Zungrana, Mumuni comme M comme Mumuni,
oui.
Et O comme Orlando. Qui fait Zedmo.
Ok. Vous aviez fait vos avances sur un titre du premier album.
Oui.
Amélie.
Amélie, oui.
Mais dites-nous, qui était Amélie pour vous?
Bon, Amélie était, comme on appelle, dans le temps, elle était ma copine.
Ok.
Voilà, elle était ma copine. Mmh. Donc, comme on était toujours ensemble, et puis voilà, et j'ai fait un rêve sur elle. Mmh. Et puis voilà, j'ai pris le rêve et puis transformé en une chanson. Voilà.
Donc, c'est l'amour qui a motivé Zedmo à écrire la chanson
Amélie.
Amélie.
Oui.
Après Amélie, l'une de vos chansons, est-ce qu'il y a eu d'autres titres encore? Il y a eu d'autres albums? Vous êtes à votre cinquième album?
Oui, je suis à mon cinquième album.
Oui, que vous chantez aussi pour les orphelins.
Oui, je chante pour les orphelins, mm-hmm, et les personnes, en tout cas en situation de tout genre de problèmes.
Est-ce que votre handicap a impacté votre musique?
Bon, l'handicap, pas trop. Je pense pas trop, parce que bon, celui qui m'écoute et qui ne m'a jamais vu et que on lui a jamais parlé de moi, peut pas savoir que celui qui chante comme ça est une personne handicapée. Donc je pense que l'handicap ne joue pas trop sur ma musique.
Depuis le bas âge, vous aviez été orphelin.
Oui.
Comment est-ce que vous vous êtes mis dans le combat pour pouvoir sortir la tête de l'eau?
Je me suis dit que après le décès de mes parents, je ne dois pas beaucoup compter sur personne, je veux dire. Je veux, un orphelin a toujours besoin de l'aide, c'est vrai, mais toi-même, tu es ton premier aide. Il faut que toi-même, tu saches que c'est la volonté de Dieu et que malgré que tu as perdu tes deux parents, tu peux être quelqu'un dans la vie. C'est ça qui m'a motivé et m'a donné beaucoup de courage de continuer.
Bravo à vous. Nous allons vous accorder un temps pour que vous puissiez nous fredonner l'une de vos chansons afin que nos auditeurs puissent vous entendre.
Donc, je vais vous jouer une chanson. C'est nouveau que je suis en train de préparer.
Donc, c'est de l'inédit.
Voilà, c'est juste un message aussi pour dire à tous ceux qui font le mal, que malgré tout, ils ne peuvent rien changer de la volonté de Dieu.
Ouais. Un message fort.
Merci.
Woyo, woyo, dunia bangbimde, hoko yoko yoko ho. Woyo woyo, dunia bang vimbe, hoko yoko yoko ho. Yempa budem kida beye, lambera umtum yan dunie. Wenam sompui bumuning angkoma, ni salakatwende. Woyo woyo, dunia bang vimbe, hoko yoko yoko ho. Yempa budem kida beye, lambera umtum yan dunie. Wenam sompui bumuning angkoma, ni salakatwende.
Super, félicitations. Nous savons que le pays traverse une situation d'insécurité et ce depuis les années 2015.
Oui.
Zedmo, quel serait votre message à l'égard de ces déplacés internes?
Je leur recommande à tout un chacun de rentrer dans la prière. Et je pense que on doit tous rentrer en prière. C'est pas une prière pour demander à quelqu'un de venir leur aider. C'est une prière pour que Dieu puisse apaiser le cœur de ceux qui tirent et les chasser loin de chez nous.
Le message est clair et très fort. Remettons tous nos problèmes dans les mains de Dieu. Lui seul trouvera la solution à nos problèmes. Merci beaucoup, Zedmo.
Merci à vous.
Venait du cinéma, je croisais une go qui s'appelait Amélie. La même nuit, j'ai fait un rêve que Amélie, elle était ma femme. Et je me suis dit, que dans la villa il n'y a pas de fumée sans la flamme. Et j'ai crié, oui j'ai crié, je dis oh mon Dieu, aide-moi à la rencontrer. Parmi des milliers de filles, oui Amélie, oui c'est toi seule que j'ai choisi pour en faire ma femme. Parmi des milliers de filles, oui Amélie, oui c'est toi qui es mon trésor d'amour.
C'est ainsi que se referme votre magazine. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie des programmes du studio Yafa. Yafa chez vous, la paix chez vous.